Ce podcast est soutenu par Neo Kids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe. Pédagogie reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant. Les équipes encadrantes sont des professionnels qualifiés et formés à la pédagogie Montessori. Neo Kids offre également une alimentation saine avec des repas exclusivement bio. Les crèches Neo Kids sont équipées avec du mobilier et du matériel pédagogique Montessori, permettant à l'enfant de développer sa concentration et son intelligence. Merci à notre partenaire officiel pour son engagement. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter François Vontron, fondateur de l'entreprise Mila. Mila, c'est une solution ludique et musicale pour aider les enfants 10 dans leur développement. En tant que passionné de musique, François a créé un outil qui stimule tous les sens des enfants 10 avec un collectif d'experts. Cette solution a déjà eu de nombreux résultats positifs et je vous invite sincèrement à la tester au plus vite. Nous sommes ravis d'avoir pu partager ce moment avec lui et de consacrer un épisode aux troubles d'apprentissage 10. Alors bonjour François.
Bonjour.
Nous sommes ravis d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors si on échange aujourd'hui ensemble, ce n'est pas complètement par hasard. En effet, le 10 octobre était la journée nationale des 10 afin de faire entendre les besoins des enfants et adultes porteurs de ces troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dyspraxie et la dysphasie. Alors avant qu'on évoque tout ça, François, j'aimerais bien que tu nous rappelles un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là.
Bien sûr, avec plaisir. Donc François Vontron, je travaille avec Mila, qui a un projet autour des troubles 10 sur les liens entre musique, rythme et donc troubles 10. Me concernant, donc, je suis ingénieur à l'origine, je suis spécialisé sur des questions d'acoustique musicale et sur les liens entre musique et cerveau, les liens entre musique aussi et supports digitaux pour les enfants. Toute la question, ça a été de voir à quel point donc, la musique déjà de base est un vecteur de motivation pour l'enfant. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà de la question de la motivation, c'est un vecteur en termes d'apprentissage qui est incroyable pour les enfants. Particulièrement, on pourrait revenir sur la question de la dyslexie, sur la question de l'apprentissage aussi derrière de la lecture. Et donc, on a rassemblé un collectif à la fois en ingénierie, à la fois en neurologie, en orthophonie, pour essayer justement de mettre des outils à disposition des familles.
Très bien. Et comment t'en es arrivé à travailler sur ça et sur le lien entre la musique et les troubles de l'apprentissage?
Je suis passionné pour ces questions depuis que je suis petit, en fait. La question de la musique, ça a été toujours très, très important pour moi. Bon, je suis musicien de formation, évidemment, à côté. Mais en dehors de ça, j'ai découvert, quand j'avais 12-13 ans, des associations et des ONG, notamment une qui s'appelle El Sistema en Argentine. Alors, en Argentine, Orquestra Escuela et côté Venezuela, El Sistema. Ce sont des ONG, des associations qui essayent de faire reprendre goût aux enfants par des pratiques orchestrales notamment. Quand vous jouez de la musique en orchestre ou en ensemble, vous avez une nécessité, un besoin d'écouter l'autre. Ça valorise la question de l'écoute, de l'harmonie entre les différents enfants, entre les différentes personnes. Et toutes ces questions-là sont extrêmement intéressantes, extrêmement puissantes. Et en fait, la musique est vraiment, dans ce sens-là, un agent de développement social. ces questions-là, c'est des choses qui m'intéressent du coup depuis que je suis petit. Il y avait deux choses qui m'intéressaient derrière, la musique et les maths, qui en soi, somme toute, en fait, sont vraiment très proches. Et de fil en aiguille, on est tombé sur des sujets plutôt de recherche, où en fait, on s'aperçoit qu'au-delà de fonctions sociales, on a vraiment des fonctions rééducatives et des fonctions d'apprentissage par la musique.
Génial. Donc, tu as fait une formation d'ingénieur, c'est ça ?
C'est ça, une formation en très classique, entre guillemets, de formation scientifique, prépa maths, une école d'ingénieur sur le plateau de Saclay qui s'appelle l'ENSTA Paritech, avant de rejoindre l'école polytechnique sur une filière plutôt audio data science.
D'accord. Et tu pratiques quoi comme instrument de musique ?
Je suis guitariste classique d'origine. Bon, après, ça touche à d'autres instruments, évidemment, mais principalement guitare de formation.
Super. Et alors, pourquoi t'être lancé dans l'entrepreneuriat ?
La question de l'entrepreneuriat, en soi, c'est vraiment une question de sens. Ce que je pense, c'est ce que je peux dire souvent, c'est qu'à mon avis, l'entrepreneuriat, en tout cas, personnellement, ce n'était pas quelque chose de voulu ou désiré depuis longtemps. Il y aurait eu une ONG ou des boîtes qui auraient travaillé, ou même dans la fonction publique, en fait, sur ces sujets-là, ça m'aurait immédiatement intéressé en sortie d'études. Mais toute la question, maintenant, ce qui devient un peu à la mode, entre guillemets, avec l'entrepreneuriat impact ou l'entrepreneuriat social, c'est vraiment la question du sens. Si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui font ce genre de projets environnementaux ou sociaux, c'est pour défendre des convictions, défendre des valeurs, défendre aussi des projets qui, à leur sens, devraient exister et qui n'existent pas forcément. Donc la question de l'entrepreneuriat, c'était plus une nécessité. Une nécessité de créer un cadre de travail et créer des projets qui aujourd'hui n'existaient pas. Et donc, il fallait entre guillemets passer par la case création pour vraiment travailler sur ces sujets-là.
Et tu fais ça depuis combien de temps ?
Ça va faire 3 ans depuis le tout début du projet. Donc, c'était mon projet de recherche en toute dernière année de l'école polytechnique. Et la création officielle de la structure date d'il y a 2 ans.
Très clair. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu des troubles d'apprentissage 10. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce que tu as appris sur ces troubles d'apprentissage et les outils à l'heure actuelle qui sont à disposition, notamment des enfants, pour les accompagner dans leur parcours scolaire ?
Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les troubles 10, on en entend de plus en plus parler, mais aussi parce que ça touche vraiment beaucoup d'enfants. On considère qu'il y a 7 millions de 10 en France, que ça touche entre 8 à 10% d'une classe d'âge. En fait, c'est des enfants qui, au-delà du sujet qui est purement clinique, donc un ensemble de conditions qui vont aller de la dyslexie pour qu'il y ait du trouble de lecture, de la dysphasie pour la question du langage oral ou la dyspraxie pour des problématiques plutôt de coordination et de motricité, on va avoir des sujets en termes d'estime de l'enfant. C'est très souvent, malheureusement, des enfants qui se retrouvent dans des schémas où l'estime d'elle-même est très dégradée par des retards scolaires, par des regards qui sont différents. Donc, il y a en fait tout un sujet qui va toucher un peu toutes les sphères sociales, un sujet à l'école qui est extrêmement important, un sujet qui est médical au sens propre du terme, et le sujet de la famille aujourd'hui où, malheureusement, les parents n'ont pas les outils, ils sont demandeurs, mais ils n'ont pas forcément les outils pour s'impliquer. À côté, on a des orthophonistes, des pédopsychiatres, des gens qui font un travail incroyable, mais qui malheureusement ne sont pas du tout assez nombreux pour répondre à la demande qui est de plus en plus grandissante.
Et comment est-ce qu'on découvre que son enfant a un trouble d'apprentissage 10 ?
Les premiers signes viennent très régulièrement des instituteurs. Instituteurs, professeurs, à partir du CP, c'est le moment, donc on dit très généralement que c'est autour de l'âge de 7 ans qu'on peut vraiment poser un diagnostic, dans le sens où avant, on ne sait pas si c'est un retard de développement vraiment dû à une dyslexie ou à un autre trouble, ou si c'est juste qu'effectivement l'enfant va juste rattraper son retard de manière normale. À partir de 7 ans, on peut commencer à le voir. C'est très généralement, c'est les instituts qui donnent les premiers signes, qui vont réorienter derrière vers des personnes qui sont habilité à poser des bilans, donc notamment les neuropsychologues, les neuropédiatres, qui vont être complétés par des bilans en ergothérapie, en psychomotricité et en orthophonie. Et tous ces ensembles de professions vont être à même d'indiquer des aménagements scolaires pour l'enfant et des séances de rééducation. C'est vraiment un champ qui est multidisciplinaire et sur lequel il y a de nombreuses fonctions à prendre en compte.
Sylvie, tu veux peut-être nous faire un retour d'expérience, toi, sur comment tu vis dans ton rôle d'éducatrice, le fait d'avoir des enfants dyslexiques, dans ta classe et comment tu l'appréhendes en tant qu'enseignante?
Oui, justement, parce que comme il a été dit, on diagnostique ça souvent vers 7 ans et c'est bien tard en fait. Ce sont des enfants qui malheureusement depuis un an voire 2 ans sont en échec scolaire souvent et donc perdent confiance en eux, ont une mauvaise image d'eux, etc. Donc moi, ce que j'avais dit dans notre pause éducative sur la dyslexie, c'est que ce serait bien de le détecter plus tôt. Et si on leur permettait d'apprendre à lire plus tôt, on pourrait le détecter plus tôt, à mon avis. Et à ce moment-là, ils vivraient moins d'années en échec scolaire, parce que déjà, vivre tout un CP où on n'arrive pas à suivre pour la lecture, c'est très, très difficile. Et nous, évidemment, dans nos écoles, on voit des enfants arriver en CE1 ou en CE2 qui ont déjà beaucoup de retard, parce qu'en fait, s'ils savent pas lire ou s'ils ont du mal à compter, ils se retrouvent déjà très, très en retard. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit diagnostiqué si tard. Sinon, c'est vrai qu'il y a des professionnels donc, qui font ces diagnostics, parce que en tant qu'enseignant, on alerte les parents, mais les parents le voient bien souvent que leur enfant il a déjà du mal. Et donc, nous, c'est différent, puisque dans les écoles Montessori, on commence la lecture à 4 ans, à 3 ans même. Donc, en fait, on se rend compte plus tôt si l'enfant il a du mal à entendre les sons, s'il a du mal à apprendre les lettres. Et de ce fait, il est moins longtemps en échec scolaire. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème et qu'il y a énormément d'enfants 10 dans les classes et que c'est des enfants qui sont en souffrance, en fait, énormément. Donc nous, évidemment, comme c'est une pédagogie individualisée, on peut adapter ce qu'on fait aux enfants. Mais c'est des enfants qui ont un parcours difficile et triste. Donc c'est vrai que s'il peut y avoir des méthodes créées pour les aider, ce serait formidable, parce que c'est pas facile. Et puis les orthophonistes sont complètement débordés. Donc souvent, ils peuvent avoir des rendez-vous que le soir, ou donc ils sont déjà fatigués, et puis ils n'ont pas beaucoup de place. Donc un rendez-vous par semaine, c'est difficile pour récupérer un retard d'un an et demi, 2 ans, quoi.
Entièrement, et je rebondis justement sur ce que tu dis, Sylvie, la question. Aujourd'hui, malheureusement, et ça on le voit dans région parisienne, c'est encore pire, mais dans toute la France, on a des listes d'attente qui sont extrêmement longues, qui vont très facilement de 12 à 18 mois. Dans la région parisienne, très facilement, ça monte jusqu'à 2 ans dans certains endroits. Donc, il y a une question de au moins prendre en charge les enfants suffisamment tôt, avec les bonnes adaptations nécessaires, et aussi arriver à poser effectivement de la compréhension et de la formation aussi, vraiment, pour les familles, qui est extrêmement importante.
Et François, d'ailleurs, est-ce que tu en sais un peu plus sur la formation qui est faite pour les enseignants? Parce que je suppose que c'est aussi une posture qui est relativement difficile à adopter pour les enseignants, notamment dans l'éducation nationale où il n'y a pas nécessairement un apprentissage individualisé, où il y a des effectifs importants. Est-ce que tu en sais un petit peu plus là-dessus?
Très sincèrement, non. Je suis assez peu effectivement du milieu vraiment purement entre guillemets éducatif et enseignant. Donc je pense que peut-être Sylvie, par contre, tu pourras mieux répondre à cette question que moi.
Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment de formation pour ça. Donc les professeurs, ils lisent, ils regardent tout ce qu'ils peuvent trouver, ils se renseignent, mais ils n'ont pas une vraie formation pour s'occuper d'enfants 10 en fait. C'est pour ça qu'ils font faire des bilans et puis qu'après ils envoient chez les orthophonistes. Ils n'ont pas vraiment de formation.
Et François, tout à l'heure, tu parlais de l'estime de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'impact que peut avoir les troubles d'apprentissage 10 sur les émotions des enfants?
Entièrement. C'est un sujet qui est complètement majeur et qui dépasse largement le sujet purement clinique. C'est ce que nous dit notamment la FF10, donc la Fédération française des troubles 10, qui fait des travaux remarquables sur le sujet et qui a pu passer une enquête qui, si je me souviens bien, était en 2019, et du coup, qui justement montrait un petit peu tous les corollaires de ces troubles. On voyait notamment que 93% des enfants 10 qui étaient sondés souffraient d'anxiété, qu'on avait plus de 30% qui développaient une phobie scolaire, donc vraiment c'est une barrière à l'apprentissage, et que de manière générale, quand ces enfants étaient en milieu scolaire, il y en avait 60% qui subissaient des harcèlements ou des violences à l'école. On est vraiment sur un blocage en fait qui est créé pour ces enfants, qui derrière en fait aussi a évidemment des répercussions terribles sur leur vie en termes de formation, en termes d'accès aux supérieurs et derrière dans les emplois. Aujourd'hui, même sur d'autres, euh, sur des personnes qui sont plus âgées, on parle pour plus par les enfants, on voit encore aujourd'hui beaucoup de personnes. Je pense par exemple à John Chambers de Cisco, qui aujourd'hui ne fait aucun brief écrit, mais qui est systématiquement obligé de passer par l'audio, parce qu'effectivement, c'est toujours un blocage pour lui sur ces questions-là. On voit encore aussi beaucoup de gens aujourd'hui en entreprise qui ont des difficultés à écrire des mails sans devoir faire se relire par des collègues, parce que il y a cette appréhension, cette question d'avoir entre guillemets des choses qui sont pas socialement acceptées. Donc c'est vraiment des énormes freins pour ces personnes-là. Donc, il y a un très gros sujet autour de l'adaptation et de l'accompagnement de ces profils qui ont des besoins éducatifs particuliers et qui ont plein d'autres forces à d'autres égards.
Oui, c'est ça, parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'adaptation du milieu scolaire, mais en fait, c'est quelque chose qui continue dans le milieu professionnel également.
Évidemment.
Tu te souviens pas, Stéphanie, quand on a interviewé la personne d'Epopia, en fait, lui, il a été très dyslexique et il disait qu'il y avait énormément d'études supérieures qui lui étaient fermées, en fait. Donc, il avait choisi les maths parce qu'il lui restait plus que ça. Mais en fait, ça lui plaisait pas tellement. Donc, c'est vrai que ça suit la vie d'un être humain pendant toute son existence, en fait. Ça ferme beaucoup de portes aussi, hein.
Tout à fait. Et François, est-ce que tu pourrais nous rappeler en quoi consiste la journée des 10 le 10 octobre ?
La journée des 10, c'est vraiment un événement de sensibilisation auprès du grand public, comme beaucoup de journées de manière générale sur des sujets précis, surtout sur des sujets de santé et d'éducation. Donc la journée des 10, elle a été organisée par la Fédération française des troubles 10, qui est la principale représentation au niveau national des parents notamment, et ça permet de faire de la sensibilisation et de faire un petit peu l'état de l'art de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, des demandes aussi d'adaptation, et donc ça inclut de manière encore une fois très exhaustive toutes les professions, que ça D'accord. aille des orthophonistes aux ergothérapeutes, en passant par les psychomotes, en incluant les pouvoirs publics bien évidemment. Et donc, samedi dernier, il y avait toutes ces représentations qui étaient présentes pour la journée des 10 à travers un certain nombre de tables rondes qui permettaient de faire le point sur l'éducation, notamment, et sur les aménagements scolaires, qui permettaient de faire le point sur la recherche aussi et sur les différentes solutions techniques qui peuvent ou non être proposées dans certains cas. Ça sera à retrouver sur le site de la FF10. En tout cas, je vous encourage à y aller. Et notamment, vous pouvez retrouver des témoignages de 20-30 personnes, qui sont 10 et qui décrivent justement tout leur parcours depuis l'enfance. C'est extrêmement précieux, ça permet vraiment de se donner une réalité très concrète sur ce que vivent ces personnes au quotidien.
Très clair. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle de Mila. Donc est-ce que tu pourrais nous réexpliquer, donc tu nous l'as introduit tout à l'heure, mais nous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'est Mila?
Avec grand plaisir. Mila, de manière très concise au début, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, ces enfants vont aussi avoir des difficultés d'un point de vue rythmique. La difficulté rythmique, en fait, va être extrêmement associée parce que on va passer par les mêmes mécanismes cérébraux pour analyser les sons, pour analyser, en fait, pour vraiment traiter cette information auditive. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que venir faire travailler à l'enfant des sujets qui vont être de l'ordre de la musique et du rythme, ça va permettre de soutenir vraiment cet apprentissage. Autrement dit, en faisant travailler à l'enfant d'exercices rythmiques, on va soutenir de la discrimination sonore, de la conscience phonologique, de la notion de temps aussi, ou la précision du geste. Donc, en fait, des compétences qui vont être sous-jacentes à l'apprentissage de l'écrit, à l'apprentissage du langage oral. Ça, ce sont des travaux, évidemment, qu'on n'a pas menés que nous en interne. Dans le milieu académique, on a notamment le professeur Habib, qui a fait des travaux remarquables dans la région de Marseille. On a la professeure Nina Cross aux États-Unis, à Northwestern University, qui mène des travaux depuis des années sur le sujet. Ou encore le Canada, qui, comme beaucoup de sujets en santé, est très en avance sur son temps et qui, déjà, déploie ses méthodes à très grande échelle depuis plusieurs années maintenant. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est qu'on a aujourd'hui des protocoles, donc des protocoles qui sont issus de connaissances scientifiques, qui permettent vraiment de faire en sorte que l'enfant puisse acquérir, ou entre guillemets, avoir un soutien à son apprentissage du langage oral écrit par des jeux qui vont être des jeux musicaux, des jeux rythmiques. L'exemple tout bête, enfantin, c'est celui de la comptine qu'on a tous vécu quand on était petit. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, effectivement, toujours les comptines sont extrêmement employées pour retenir, pour faire de l'apprentissage, parce que derrière, il y a des mécanismes nerveux qui sont extrêmement similaires. Une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte que ces protocoles, donc pour donner des exemples concrets, on va être dans de la reproduction rythmique, donc on va avoir un première séquence rythmique qui va être jouée, l'enfant qui va devoir le répéter, puis on va ajouter différents phonèmes que l'enfant va devoir arriver à dissocier de la bonne manière, puis les re-répéter en les chantant. Tous ces petits jeux qui sont enfantins ont été depuis 20 ans, 30 ans maintenant découpés dans tous les sens pour essayer entre guillemets d'en tirer vraiment le principe actif, je dois dire. Un de ces principes actifs, c'est la question de l'intégration intermodalitaire. Autrement dit, venir faire en sorte que le geste soit accompagné du son, soit accompagné du visuel. Et autrement dit, on essaye de faire en sorte, et c'est nécessaire, que le mouvement de l'enfant soit associé à ses autres sens. C'est aussi un peu un autre combat qu'on mène, c'est d'arrêter de dire que un outil thérapeutique, aussi bon qu'il soit, ne pourra jamais se résumer à mettre une tablette devant un enfant avec quelque chose de visuel et on se dit que c'est bon, c'est gagné. Ça ne marche pas comme ça, ça n'a jamais marché comme ça et malheureusement, ça ne marchera pas. La question, c'est de venir reproduire une expérience qui soit intermodale, donc auditive, visuelle, qui implique le corps de l'enfant, qui soit très motrice, vraiment, donc l'apprentissage par le jeu, mais de manière complète, multisensorielle. Une fois qu'on a tout ça, on a des progrès qui sont fantastiques. Et ça, aujourd'hui, on le voit donc dans la littérature, évidemment. On le voit de manière très concrète. Si je reprends l'exemple de la région de Marseille, donc le professeur Habib et le réseau de santé qui l'accompagne, donc le réseau 10, font des formations et accompagnent plus de 1000 enfants tous les ans. Et ça donne des résultats qui sont absolument époustouflants. Donc toute la question qu'on s'est posée avec Mila, c'était de se dire, aujourd'hui, de l'autre côté, d'un point de vue technique, on est capable d'avoir un impact en diffusant ces outils sur du numérique. Alors ok, faisons-le, mais faisons-le de la bonne manière. C'est-à-dire que si on met des choses sur des tablettes, on va reproduire une expérience multisensorielle avec la caméra, avec de l'audio, avec des techniques maintenant de... Le mot machine learning est très utilisé, un peu à la mode, mais vraiment des techniques qui vont nous permettre de comprendre l'enfant dans sa globalité. Et de l'autre côté, faisons en sorte que ça reste un outil thérapeutique, donc bloquons-le dans le temps. Faisons des sessions de 20 minutes par l'enfant, maximum par jour. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça soit un outil, un support, et que ça puisse permettre à l'enfant de se réapproprier des compétences et surtout un goût de l'apprentissage par d'autres vecteurs.
Génial. Et donc, ce sont les parents ou les professeurs qui accompagnent l'enfant avec cet outil ?
Ça, c'est vraiment une super question. Effectivement, comme ça a été une des grosses problématiques qu'on a rencontrées. Alors, très franchement, tout le monde est un petit peu concerné, comme on est sur un sujet qui est multidisciplinaire. Autrement dit, au tout début de l'aventure, notre principale préoccupation était aussi de se dire, mais les parents aujourd'hui, ils sont demandeurs d'outils, ils sont très demandeurs, ils ont la volonté d'être plus impliqués, mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils. Donc évidemment, on va penser en priorité à eux quand on conçoit ce genre d'outils, et c'est ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien. Le deuxième sujet, c'est qu'évidemment, il y a des professionnels de santé, orthophonistes, psychomotes, ergothérapeutes, qui font déjà un travail incroyable. Donc évidemment, on a l'aide de les inclure dans la boucle. En fait, on se rend compte aussi derrière que vous allez avoir des AVS, des éducateurs SP. Donc en fait, on a tout ce genre de public qu'on a besoin et qu'on a besoin d'inclure au quotidien. Donc on a aussi construit une plateforme en interne qui nous permet d'échanger sur ces sujets, d'avoir des sujets de collaboration, entre guillemets, d'être vraiment multidisciplinaire et de faire en sorte que l'outil puisse servir à tous. De manière très concrète, aujourd'hui, Mila, c'est un outil qui est déployé sur tablette, sur téléphone également, pour l'interface enfant. Et donc, l'interface enfant, vous rentrez dans un parcours qui est scénarisé, sur lequel vous avez des jeux musicaux que l'enfant peut faire de manière totalement autonome et sur lequel, de toute façon, l'enfant, au bout d'un moment, au bout de 15-20 minutes, on va lui dire « Écoute, t'as assez joué pour aujourd'hui, reviens demain. » Donc, il va être autonome, il va pas de toute façon se lancer pendant des heures sur un jeu informatique. L'idée, c'est que ça soit de manière très simple, très ludique. On inclut, on pourra en parler après, mais plein de musiques aussi que lui connaît, des musiques modernes, et ça va aller jusqu'à des musiques Disney qu'on a récemment intégrées. Tout cet univers-là, c'est autonome. De l'autre côté, on a une interface qui est plutôt destinée aux parents et une deuxième interface qui est destinée aux professionnels de santé, qui va permettre de surveiller déjà, d'avoir un certain contrôle parental, qui va permettre aux professionnels de santé de moduler l'activité par rapport à sa connaissance qu'il a et qu'on n'aura jamais, entre guillemets, du parcours de l'enfant, de ses difficultés exactes et justement pour pouvoir ajuster au plus près. Autrement dit, aujourd'hui, nous, en fonction du bilan de l'enfant, on peut permettre effectivement d'avoir un parcours individualisé, mais le professionnel de santé va permettre vraiment d'apporter toute son expertise sur ce sujet pour en faire l'outil le plus efficace possible.
C'est génial. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de ce que fait un enfant pendant quelques minutes avec Mila ?
Bien sûr. On va avoir, par exemple, ce jeu SingLab qui s'appelle ainsi parce que justement, il y a vraiment la question donc, du chant, de la comptine. sur lequel on va demander donc au début à l'enfant de venir saisir le tempo d'une musique. Saisir ce tempo, venir le frapper dans ses mains, déjà, il faut savoir que c'est un exercice qui est extrêmement difficile, de venir se synchroniser sur un tel rythme. À partir du moment où vous avez ça, on va lui demander effectivement de reproduire une certaine séquence de phonèmes, donc qui va aller par exemple du bas à pas, etc., sur lequel il va y avoir de la différenciation à faire. Et sur lequel l'enfant va devoir justement reproduire ses phonèmes en les chantant. Et nous, ce qu'on va aller regarder très précisément, c'est la question de l'attaque, à quel point ce qu'on appelle le onset times, à quel point justement l'enfant va pouvoir être en mesure de chanter entre guillemets sur le bon temps. Et ça, c'est un indicateur qui est extrêmement précieux pour savoir quelle est sa capacité justement à saisir cet aspect rythmique. La question de la hauteur, mais qui est un petit peu moins importante, et la question de la prononciation, en fait, qui va passer aussi d'abord par donc la différenciation des différents phonèmes pour les analyser et être capable de les reproduire. Est-ce que l'enfant est capable de les saisir aussi sur la bonne durée également? C'est ces questions-là qui vont nous intéresser. Donc, petit à petit, on va venir les complexifier. On va venir en faire des exercices qui sont de plus en plus complets où, tout en chantant, il va commencer à bouger le bras droit, bouger le bras gauche, faire tel mouvement, etc., etc. Et donc, on vient stimuler l'ensemble de manière globale. L'idée, c'est que jamais un exercice n'est pris sur un sens de manière très individuelle, mais de venir faire à chaque fois travailler l'enfant des questions du langage oral, écrit, mais toujours de manière globale et multisensorielle.
Génial. Et comment vous avez choisi les musiques à intégrer ?
C'est une question qu'on nous pose souvent et très sincèrement, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant ait spontanément envie de venir et que ça ne soit pas encore un énième outil, mais un peu rébarbatif. Concrètement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la musique derrière est plutôt un support. C'est un cadre thérapeutique. Mais l'essence, le principe même va plutôt venir d'un point de vue des séquences rythmiques. Certaines séquences rythmiques vont être appropriées, d'autres non. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on a quand même énormément de choix dans la musique et ça va pouvoir aller à des musiques du type Disney jusqu'à des musiques beaucoup plus récentes qui vont être appropriées pour les enfants. Donc, on a essayé d'avoir un panel le plus large possible, de laisser du choix à l'enfant, on essaie d'y aller le plus possible. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez trouver à date, ce sont des morceaux qui vont être connus. On a pu notamment beaucoup les tester au Canada, à Québec, avec les enfants pour essayer de sélectionner les musiques les plus adaptées. Donc, on va aller depuis Disney, qui nous a fourni un certain nombre de contenus musicaux extrêmement précieux. Donc, alors, ça va aller de Libérer, délivrer, hein, désolé pour certains parents, mais jusqu'à des morceaux beaucoup plus récents, de Big Flo et Oli, par exemple. Et tout un tas de contenu également qui nous vient de Kids Bop, qui est un label anglais qui reprend plein de musique en mode entre guillemets non explicite. Ce qu'on appelle non explicite, c'est des morceaux qui sont entre guillemets qui ont été peaufinés pour que ça aille bien à des enfants, qu'il n'y ait pas aussi voilà que tout ce filtre en termes parental soit déjà pré-effectué et qu'on ait des morceaux qui correspondent à une tranche d'âge qui est quand même principalement aujourd'hui 8-12 ans.
D'accord. Et comment vous avez testé votre produit ?
On l'a testé alors à trois grosses périodes principalement, mais avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de le faire de manière la plus régulière possible. Encore aujourd'hui, donc on interview des parents systématiquement pour avoir leur retour d'expérience, leurs conseils. On a la chance d'avoir énormément de retours. Et en tout cas, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes utilisateur de Mila, on vous encourage à nous faire des retours. Donc c'est vraiment comme ça que nous aussi, on peut vraiment tous progresser ensemble. Après, il y a eu quand même trois phases majoritairement importantes pour nous. Une première qui était en fin 2018 au centre de rééducation neurologique de l'hôpital Bicêtre. Donc, on a pu tester une première fois le produit près d'une quinzaine d'enfants. Ces 15 enfants étaient suivis, donc qui étaient divisés en deux groupes. Un groupe qui était suivi avec Mila, l'autre qui était sans Mila. Et on a pu voir après 9 semaines les progrès en termes de lecture principalement. On suivait d'autres variables, notamment des questions de morphosyntaxe, mais sur lesquelles on avait de moins grands progrès significatifs. Mais sur les questions de lecture, on avait déjà des premiers résultats qui étaient extrêmement intéressants. On a pu reproduire l'expérience une deuxième fois à Québec, au Canada, en début d'année du coup 2020. Cette deuxième expérience aujourd'hui, ça nous a permis d'aller plus loin sur ces résultats, mais aussi d'aller voir quelle était l'adhérence des enfants, de venir sélectionner avec eux les musiques, de venir voir tous les petits freins qui pouvaient entre guillemets casser l'expérience pour l'enfant. Et enfin, la troisième phase qui a été extrêmement importante a été accélérée par le confinement, dans le sens où qui dit confinement dit malheureusement arrêt des soins pour beaucoup d'enfants. Les Zooms déjà, c'était pas facile pour beaucoup de gens, mais effectivement réaliser des sessions en orthophonie, c'était extrêmement compliqué. Donc on a pu mettre cet outil à disposition d'orthophonistes, de psychomotriciens et d'autres professionnels de santé pour avoir des jeux à distance. Et très rapidement, on est passé à 4500 inscriptions, donc qui étaient via des codes d'invitation, notamment de la Fédération française de troubles 10, et 2500 patients qui étaient actifs. Et ce qu'on voit, et ça pour moi, c'est la donnée la plus importante, c'est que ces patients reviennent entre 3 et 4 fois par semaine, à raison d'une quinzaine de minutes. Autrement dit, on est sur des petits échantillons, des petits éléments en termes de temps. Donc on est vraiment en train de dire, on met l'enfant devant un outil informatique, mais pour des petites durées de temps. Mais par contre, ça va être de manière très régulière. C'est comme quand vous apprenez, l'anglais au collège. Bon, pas grand monde le fait, malheureusement, mais tout le monde le dit. Mieux vaut apprendre régulièrement ses leçons d'anglais. Vous arriverez beaucoup plus vite à avoir vos verbes irréguliers à la fin, plutôt que si vous faites 2 heures la veille du contrôle. Bon, c'est vraiment dans cette perspective-là que, aujourd'hui, en rajoutant ces petites sessions, entre guillemets, d'une quinzaine de minutes, on arrive vraiment à avoir un progrès. Donc, on a eu beaucoup de retours. Là, la journée des 10, ça nous permet d'avoir une sortie accès exceptionnelle, donc d'un second outil qui est la version améliorée avec des histoires, des graphismes améliorés, mais aussi tous les retours. Et on en a eu plus de 200 de retours, témoignages de parents. C'était vraiment exceptionnel pour nous pour vraiment passer à la version supérieure. Maintenant, on a un outil donc, qui est la version améliorée qu'on vient de sortir le 10 octobre dernier, donc ce samedi. Et la prochaine étape, ça va être de faire la suite de notre poursuite en termes de recherche clinique à grande échelle. Autrement dit, faire la même chose, mais sur des variables qui vont être des variables de l'ordre clinique. Donc, ne plus seulement se satisfaire aujourd'hui de tous les retours terrain qu'on a. On a beaucoup de retours terrain d'orthophonistes, de psychomotriciens, ou même de familles, en fait, qui nous donnent effectivement les progrès qu'ils voient en termes de psychomotricité ou en termes de langage oral ou écrit. Mais la question maintenant aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des mesures très objectives pour non seulement défendre ce projet d'un point de vue éducation nationale et pouvoir public, mais aussi défendre ce projet international.
Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, surtout par rapport à l'autonomie que les enfants peuvent avoir par rapport à cette méthode. Parce que j'ai souvent remarqué dans nos classes que les enfants qui vont chez les orthophonistes, et ben, au bout d'un moment, et les ergothérapeutes, etc., au bout d'un moment, ils en ont marre, en fait, d'aller d'un rendez-vous à l'autre. Et ça leur prend énormément de temps et ils en ont assez. Et je pense qu'une méthode, justement, qu'ils peuvent faire à la maison, tout seul, en autonomie, c'est vraiment bien, surtout pour les enfants quand ils grandissent. Parce qu'après, il y a un stade où ils n'en peuvent plus de tous ces rendez-vous. Et puis aussi, comme tu disais, les parents essayent tout ce qu'ils peuvent, en fait. Moi, j'ai eu des parents d'enfants extrêmement 10 qui ont essayé toutes les méthodes possibles pour apprendre à leur enfant à lire, pour les soutenir. Mais du coup, ils commencent une méthode, et puis après, ils en font une autre, et puis après, ils en font une autre. Et du coup, l'enfant, il est encore plus paumé parce qu'il y a énormément de méthodes différentes. Et je trouve que, justement, arriver à concevoir un outil qui puisse être utilisé à la maison par les familles, et puis où l'enfant peut être autonome justement sur sa difficulté justement et essayer de trouver la solution par rapport à sa difficulté, c'est vraiment vraiment super. Et aussi je trouve que les outils utilisés sont différents de ce qu'on utilise en classe. Et je pense que du coup l'enfant n'est pas en échec. Et ça c'est important de les éloigner de l'échec parce qu'ils le vivent tellement que si on peut les aider à trouver des solutions autrement, c'est assez formidable. Donc vraiment, je trouve que Mila, c'est pour moi, c'est un super outil pour les familles et pour les enfants. Après, pour les professionnels, je ne sais pas parce que je ne suis pas assez forte là-dedans. Mais je trouve que de ce que j'entends de nos élèves et de ce que j'entends de nos parents, je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir un outil comme ça.
Ce qui serait très chouette, et ça, je pense, c'est un sujet que tu viens d'aborder, c'est aussi la question de la classe. Autrement dit, arriver un jour à avoir un outil qui soit aussi utilisable en groupe avec 2, 3, 5 enfants. Aujourd'hui, typiquement, ce qu'on a pu voir à Bicêtre, c'est que quand on voulait faire une session avec 2 enfants, c'est vrai que ça motivait énormément l'autre personne et donc du coup d'avoir son camarade à côté, etc. Mais arriver à avoir des sessions où on peut être plusieurs en groupe, ça serait vraiment un objectif qui nous intéresse beaucoup. En termes techniques, c'est très, très compliqué à développer parce que ça implique effectivement de différencier toutes les sources sonores. En termes de motricité, c'est extrêmement compliqué à analyser pour, entre guillemets, encore une fois, reproduire cette expérience réelle, entre guillemets, et pas être juste dans du tactile et du toucher. Donc, c'est vraiment encore un saut technologique, mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête et de la même manière, de garder aussi en tête que cet outil, un jour, in fine, il va pouvoir pas seulement être entre les mains de professionnels de santé ou des familles, ce qui est déjà un grand pas, mais aussi pouvoir servir de manière générale sur des questions d'éducation.
Surtout que les enfants, ça leur fait du bien souvent de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls comme ça. Parce que souvent, ils développent un peu une honte et ils se cachent un peu. Et quand on leur dit, mais franchement, tu n'es pas le seul, il y a plein d'enfants qui sont 10, ça les apaise en fait. Donc c'est vrai que de pouvoir travailler même à plusieurs et d'avoir des outils, nous, dans les classes, parce qu'on n'est pas formés, nous, pour nous occuper, on le fait avec notre cœur, quoi. Et ce serait vraiment intéressant d'avoir des outils que l'on puisse utiliser et mettre à disposition des enfants dans la classe.
Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec quelqu'un de la FF10 au sujet des conservatoires et des professeurs de musique. Du coup, évidemment, c'est un lieu où les profs de musique se rendent aussi très vite compte des enfants qui ont des besoins vraiment particuliers ou qui ont des difficultés sur des sujets rythmiques. Et donc typiquement, c'est aussi le genre de lieu que je garde en tête en me disant, mais oui, c'est un lieu entre guillemets un petit peu idéal. Les écoles de musique, les associations de musique, même à titre personnel, moi, ça me ferait très plaisir. Mais c'est un sujet qu'on garde vraiment en tête.
Super. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même bien parler de tes projets futurs avec Mila. Donc, tu as mentionné l'éducation nationale, tu as mentionné l'international. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un peu plus là-dessus ou s'il y a même d'autres projets avec Mila que tu as envie de concrétiser dans les prochaines années.
Bien sûr. Avant tout, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est que notre feuille de route est publique. On est un collectif multidisciplinaire et qui essaye de, autant que faire se peut, d'inclure toutes les parties. Donc si vous nous écoutez, que vous êtes parent, que vous êtes éducateur ou professionnel de santé, ça nous intéresse vraiment d'avoir des retours. Et on encourage vraiment d'avoir le maximum de collaboration. La feuille de route est publique, donc n'hésitez pas, venez nous parler et ça nous permettra de construire l'outil le plus efficace pour tous. Ce qu'on a prévu en termes de feuille de route aujourd'hui, il y a effectivement une question d'international. C'est une question qu'on a développée quand j'étais aux États-Unis en fin d'études à San Francisco, avec les liens avec Marcy qui s'est internationalisé et avec le Canada qui est très en avance sur ces sujets-là. Et donc très rapidement, on en est venu aussi à un sujet qui est franco-américain, canadien, suisse maintenant de plus en plus aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous, de dire que fondamentalement, en fait, dans l'outil qu'on développe, on est de plus en plus agnostic de la langue, on a la question de la rythmicité, de la musicalité qui est très importante, autant le diffuser au maximum, ça nous permettra d'avoir des outils aussi internationaux, efficaces et utilisés par le plus de monde. Et donc, ça sera un cercle vertueux aussi qui va nous permettre de gagner en individualisation des différents parcours. Ça, c'est un des premiers trucs qui sont, c'est un des trucs qui est très important pour nous. Le deuxième, c'est la question du soutien entre les différentes familles. Donc, tu parlais tout à l'heure, Sylvie, effectivement, des enfants qui avaient besoin de se reconnaître, entre guillemets, de parler à d'autres enfants qui avaient ces mêmes troubles. C'est aussi le cas pour les éducateurs ou pour les familles qui souvent se sentent un peu seules. Et c'est un des sujets dont on s'est rendu compte, c'est qu'en faisant toute cette partie rééducation, en tout cas continuité thérapeutique, qu'on avait plein de gens face à nous, en fait, qui nous posaient plein de questions sur les dossiers de la MDPH, sur les démarches administratives. Donc c'est tout un autre pan, c'est tout un autre sujet qu'on essaye de mettre en œuvre sur le reste de notre temps pour faire en sorte que ces différentes personnes se parlent, puissent aller, entre guillemets, trouver les solutions de la manière la plus facile qu'il soit. Et enfin, le dernier truc, c'est la question, encore une fois, de l'individualisation, moduler les parcours de manière la plus précise possible. C'est beaucoup de travaux technologiques, de travaux scientifiques qu'on est en train de mener. Ça va encore se mener sur les deux prochaines années, avec donc principalement sur l'axe recherche. C'est un travail nous qui nous passionne. En tout cas, on va être aussi en train de recruter des populations pour tester ces outils en avant-première. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Nous, on est à disposition et on est extrêmement preneurs de retour en live, de retour en visio. C'est des choses qui nous font plaisir et surtout qui nous aident à construire un outil qui est meilleur.
C'est génial. Merci beaucoup, François, pour ces propos passionnants et cet outil qui est très prometteur et je vous souhaite beaucoup de succès parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de recherche derrière et qu'en plus ça intègre une communauté très large de spécialistes. Donc merci encore une fois pour ton temps. On partagera tout ça également sur les réseaux sociaux pour que les parents, les éducateurs, les professionnels de l'éducation puissent également vous faire part de leur retour. Merci beaucoup François.
Merci beaucoup, merci Stéphanie et merci Sylvie.
Merci beaucoup François.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.